Nous allons lire un court passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 12. Évangile selon Marc, chapitre 14, nous lisons à partir du verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu ?» où je mangerai la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu fais du bien à notre âme. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments précieux passés dans la communion fraternelle sous ton regard. Et nous te sommes aussi reconnaissants pour ta parole que tu nous as laissée et qui est pour nous un guide. Seigneur, en plongeant nos regards en elle, nous réclamons le secours de ton esprit pour que tu illumines notre entendement et que tu nous aides à vivre aussi selon ce que tu nous révèles au travers d'elle. Seigneur, mon désir le plus cher, c'est que mon cœur soit comme cette chambre haute dans laquelle toi-même tu seras honoré, glorifié, élevé comme tu es digne de l'être. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs, pour ce que tu as accompli dans leur vie. Merci parce que ensemble nous constituons ton peuple et nous savons effectivement qu'un jour nous serons avec toi et tout cela nous le devons à l'œuvre parfaite que tu as accomplie en notre faveur sur la croix. Maintenant, ouvre nos cœurs pour que nous puissions discerner quelle est ta volonté et aide-nous à l'accomplir. Nous te le demandons ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons juste pendant quelques instants, après avoir ouvert la parole de Dieu et lu quelques versets dans cet évangile de Marc, nous entretenir au sujet d'un homme dont nous ne connaissons pas le nom. Et il serait tout à fait vain et inutile que nous essayions de connaître son nom, parce qu'aucun évangile ne nous dit quel est le nom de cet homme. Cependant, cet homme a accompli la volonté de Dieu, et nous pouvons le connaître, non pas par le prestige de son nom, mais nous pouvons le connaître par ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait pour le Seigneur. Certainement que cet homme n'avait ni grandeur, ni réputation, ni talent exceptionnel particulier. C'était le commun des mortels. Il faisait partie de ces anonymes modestes qui ont suivi le Seigneur sans aucune recherche d'intérêt personnel, mais n'ayant qu'un seul désir, c'est de rendre le service qu'il croyait être nécessaire à celui qu'ils aimaient de tout leur cœur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Vous savez, pendant un temps, Jésus a bénéficié, je dirais, d'une certaine, réputation. La Bible elle-même dit que sa renommée s'est accrue à cause des grands miracles qu'il accomplissait. Et l'Évangile nous montre qu'une foule de personnes le suivaient partout où il allait, jusqu'à ce moment très précis où, se rendant compte que cette foule le suivait davantage par intérêt que par amour, Jésus s'est retourné vers elle et il a posé la question « Mais pourquoi me suivez-vous ? Vous me suivez non même pas parce que vous avez vu des miracles, mais il y avait à peine quelques heures que Jésus avait réalisé ce prodige de la multiplication des pains. » Et tous ces gens-là étaient très attachés à lui, parce qu'ils pensaient à un moment donné que Jésus était le roi qu'ils attendaient, et un roi qui était capable de faire de tels prodiges, ça était quelque chose de très intéressant pour eux, et ils le suivaient donc par intérêt. Mais Jésus a prononcé une parole particulièrement dure, et il leur a dit « Travaillez ». Pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et à partir de ce moment-là, et alors qu'il leur a présenté la vie avec lui d'une manière un peu plus précise, nette, et d'une manière très consacrée, les gens se sont retirés de lui et il est resté juste autour de lui que le groupe des disciples auquel il a encore adressé la parole à ces termes, et il leur a dit « Et vous, vous ne voulez-vous pas partir aussi ?» Et c'est là que Pierre a prononcé cette parole que nous connaissons bien, « Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Le groupe s'est donc restreint. Il y a un petit groupe de fidèles qui étaient autour de la personne du Seigneur. Certes, il y avait d'autres disciples. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il apparut à plus de 500 frères à la fois. Mais finalement, ceux qui étaient le plus attachés à lui étaient un petit nombre. Et nous savons, parce que la parole de Dieu nous le révèle au travers du livre des Actes des Apôtres, que le jour de la Pentecôte, il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la promesse faite par le Seigneur. Mais au fur et à mesure qu'on lit les évangiles, alors on s'aperçoit qu'il y a quelques personnages comme cela, qui sont un peu comme des portraits qui apparaissent dans une galerie, qui se trouvent dans la pénombre, des gens qui n'ont pas une grande influence, qui n'ont pas de réputation, de renommée, et des gens simples, mais qui aiment le Seigneur. Parmi ceux-là se trouve par exemple la femme sans nom, qui un jour a pénétré dans la maison où Jésus se trouvait pour prendre un repas et qui est venue avec un parfum de grand prix qu'elle a répandu sur la tête du Seigneur. Parmi ces gens modestes, humbles, qui n'avaient pas, je dirais, d'intérêt personnel, ni non plus de recherche de gloire personnelle, il y avait, par exemple, cet homme qui est connu par un geste qui lui a été imposé. Je pense à Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Seigneur. Mais vous savez, il n'y a aucun petit fait accompli par amour pour le Seigneur qui ne reçoive sa récompense. Et par exemple, ne serait-ce qu'au sujet de Simon de Cyrène, on s'aperçoit par la suite, notamment au travers des épîtres, que cet homme avait deux fils, dont l'un s'appelle Rufus et l'autre Alexandre, et on les trouve parmi ceux qui suivent le Seigneur. Probablement que le geste accompli par Simon de Cyrène, qui au départ était comme une obligation, s'est transformé en une révélation formidable, et Simon de Cyrène a pu découvrir l'amour formidable de Jésus. En rentrant à la maison, il a dû rendre témoignage de ce qu'il avait vu, de ce qu'il a fait, et ça a eu une conséquence dans sa famille. Il y a d'autres personnages comme cela dont la Bible ne nous présente pas des exploits accomplis par eux, mais celui duquel je vais vous parler fait partie de cela. Cet homme, nous ne le connaissons pas. Et Jésus a dû avoir un entretien avec lui en aparté. Et cela pourquoi? Simplement parce que Jésus savait, dans cette période qu'il connaissait, qu'il traversait, une période particulièrement difficile. Nous savons tous que les chefs religieux, pleins de jalousie, pleins de haine, cherchaient à le faire périr. Il y avait également les chefs politiques, qui avaient dans leur cœur des pensées négatives au sujet de Jésus. Il y avait tout un contexte d'amertume, de haine, qui se focalisait sur la personne même du Seigneur Jésus. Et Jésus savait aussi que parmi le nombre des disciples, il y en avait un qui s'appelle Judas, dont nous connaissons l'histoire révélée par l'Évangile, qui n'avait qu'une seule intention, un seul désir, c'était de livrer son maître. Et Jésus, connaissant tout ce qui se passe dans le cœur des hommes, et particulièrement aussi dans le cœur de Judas, ne pouvait pas révéler par avance l'endroit où la dernière Pâque devait se célébrer. Parce que s'il avait révélé cela, Judas, par anticipation, aurait accompli ce pourquoi il est venu ici-bas sur la terre, et Jésus contrôlait toutes les situations. Il avait tout en main. Vous savez qu'un jour, Jésus a dit lui-même, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. » Et le fait qu'il contrôle toutes les circonstances, tous les événements, qu'il a en main toutes ces choses-là, est la preuve qu'il est vraiment dans le plan de Dieu et qu'il est vraiment l'envoyé du Père. Et donc, à un moment donné, il y a eu certainement un aparté, ce contact avec cet homme que l'on ne connaît pas. Et ils ont dû établir un moment précis, un lieu précis aussi, où il y aurait une rencontre avec les disciples, Jésus et également cet homme dans cet endroit particulier qui est la chambre haute. Vous voyez, cet homme a dû voir tout ce qui se passait autour de la personne du Seigneur Jésus. Il a dû se rendre compte des pièges qu'on lui tendait. Il a dû se rendre compte de l'amertume sans cesse grandissante qui était dans le cœur de certaines personnes. Et lui, eh bien, d'un seul coup, il a pensé, « Mais moi, j'ai à ma disposition un lieu où le Seigneur pourrait passer la dernière Pâque. » Un peu dans la paix, dans la tranquillité. Et il a eu ce contact avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il a envoyé ses deux disciples pour préparer la Pâque, et l'évangéliste Luc nous révèle le nom de ses deux disciples, il dit c'est Pierre et Jean, il leur donne cette précision. Allez dans la ville et vous allez rencontrer un homme. Cet homme, c'était le serviteur du personnage duquel nous sommes en train de parler, qui lui était le propriétaire de cet endroit qu'il allait mettre à la disposition du Seigneur. Et Jésus a donné un signe parce que cela a été convenu avec le maître de la maison. Et le signe est celui-ci, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Et cela pourrait nous paraître tout à fait banal à nous, mais à cette époque, non. Ça ne pouvait pas être un homme qui porte une cruche d'eau. C'était les femmes qui étaient dédiées à un tel service. Mais là, il fallait un signe particulier pour reconnaître celui qui, justement, était désigné par le Seigneur. Et quand les disciples sont arrivés dans la ville, ils ont vu cet homme, c'était vraiment une exception. Ils l'ont suivi comme le maître a demandé qu'il fasse, et ils sont arrivés dans cette demeure où le maître était présent, et ils ont posé la question, où est-ce que l'on doit préparer la Pâque pour le maître? Et tout de suite, cet homme a mis à leur disposition cette grande chambre haute, toute préparée. Je répète, cette grande chambre haute, toute préparée. Et là, le Seigneur est arrivé quelques heures plus tard avec les disciples et ils ont passé des moments exceptionnels. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je voudrais insister particulièrement là-dessus. Première question. Mes frères et sœurs, faites-vous la différence entre un esprit de soumission et aussi un esprit de prévenance, un esprit attentionné? Je voudrais, par certains exemples, mettre en évidence la différence qu'il y a entre obéissance due à la soumission et la prévenance ou un esprit attentionné. Par exemple, si quelqu'un est dans la soumission, ça veut dire qu'il est dans l'attente de recevoir un ordre précis. Et il va obéir, bien sûr. En ce qui concerne le Seigneur, l'obéissance est tout à fait normale, elle est nécessaire. Et je comprends que le Seigneur puisse attendre de chacun de nous l'obéissance, car il a écrit lui-même, en tous les cas, au travers de sa parole, il est dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ce qui veut dire qu'il va obéir en se soumettant à la parole de Dieu. Le fils soumis va attendre, par exemple, que le père donne des ordres, ou la maman, et il va accomplir ce que le père ou la mère demande, mais tout aussi vite il a terminé d'obéir, il va prendre d'autres dispositions et il va se retirer le plus rapidement possible pour se livrer à quoi? À des satisfactions personnelles, à un plaisir personnel, se livrer à une activité particulière. Il a obéi et puis il s'en va parce qu'il a fait son devoir et maintenant il a autre chose à faire. Un esprit prévenant, et je reprends le témoignage du fils, ce sera quoi? Le fils va faire ce que la maman ou le papa va demander, et puis parce qu'il est attentionné, avant de partir, avant de rechercher ses intérêts personnels, il va se retourner vers la maman et va lui dire, « Maman chérie, est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre à faire? As-tu encore besoin de moi ?» Il y a l'épouse qui peut être soumise parce que la parole de Dieu le réclame et elle va tout simplement être soumise et obéissante jusqu'à un certain point. Attention, Je profite de l'occasion pour vous dire que la soumission ne met pas l'épouse en dessous du mari. Je profite de cet instant pour vous dire que la femme est l'égale du mari. Et il y a un ordre simplement dans le foyer et on peut respecter cet ordre-là. Mais la prévenance va aller plus loin que la soumission, va chercher tout simplement à trouver quelque chose qui sera agréable, qui pourra satisfaire le cœur de l'être bien-aimé. Et ça, c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le mari peut aussi avoir cette même attitude. Et voyez-vous, les disciples certainement se soumettaient à la volonté du Seigneur. Et cet homme-là, on ne le connaît pas. Il fait partie des disciples, mais inconnu. Un peu comme, vous savez, il existe dans notre pays ce que l'on appelle la tombe du soldat inconnu. Et vous voyez, la tombe du soldat inconnu, ça ne porte pas la mention d'un nom particulier, parce qu'il ne s'agit pas d'un personnage particulier, mais elle met en relief qu'il y a eu des êtres qui ont tellement aimé la nation que finalement, ils ont payé de leur vie, leur amour pour la nation. Eh bien, le Seigneur recherche au milieu de son peuple, de ses enfants, des êtres qui, pas seulement sont prêts à faire telle ou telle chose, parce que c'est une évidence, parce que cela est imposé, parce que cela on le demande dans l'Église, mais des cœurs qui vont au-devant, je dirais, du Seigneur. Parce qu'il y a une aspiration profonde dans leur être intérieur, et cette aspiration, c'est « Seigneur, je veux être agréable à toi. Je veux faire ce qui peut te réjouir. Non pas « je te cherche parce que finalement j'ai des intérêts à te rechercher, mais je cherche la communion avec toi parce qu'il n'y a pas de meilleure chose que de vivre avec toi et de satisfaire ton cœur en te comblant par ma louange, par mon adoration. » Vous savez, mes frères et sœurs, cet homme devait être dans cette disposition. Dans l'Ancien Testament, nous avons un témoignage presque analogue. Je voudrais vous le rappeler, c'est dans le deuxième livre de Samuel, que David, le roi David, s'est trouvé à un moment donné dans un certain moment nostalgique. Et il était là, dans le combat, il y avait une période de guerre, et puis il a vu là-bas le petit village de Bethléem, et, mais comme un soupir, non pas un ordre, non mais comme un soupir, un désir qu'il a exprimé, qu'il n'a pas pu réprimer à l'intérieur de lui-même, et c'est sorti de sa bouche comme cela. « Oh, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem ?» Et il y a trois hommes qui étaient là à côté, et ces trois hommes n'ont rien dit, et ils sont partis. Ils ont traversé les armées des Philistins, ils ont, au péril de leur vie, sont allés jusqu'à ce puits désigné par David. Ils ont pris de l'eau. Il y avait un tel amour pour leur roi, leur maître, qu'ils ont voulu apporter cette coupe d'eau et ils l'ont amenée à David. Et David, qui a réalisé que c'est au péril de leur vie qu'ils avaient fait cela, a répandu cette eau sans la boire. Parce qu'il a dit, seul Dieu mérite une chose semblable. Et il a répandu cette eau-là, parce qu'il dit, je suis quand même pas digne de boire de l'eau qui a été acquise au péril de la vie de ces hommes-là. Mais mes frères et sœurs, est-ce que dans notre cœur, il y a cet amour brûlant pour le Seigneur, un amour poignant, un amour qui dépasse un petit peu ce que nous traduisons par des habitudes, certainement des habitudes saines. Quand nous venons ici, c'est une bonne habitude. Quand nous venons au culte, à n'importe quelle réunion, nous le faisons pas seulement parce que c'est une habitude, mais nous sentons que parfois, eh bien, notre cœur n'est pas brûlant de cet amour que nous devrions avoir pour lui. Alors, j'aimerais justement vous aider à saisir ma pensée au travers de cette illustration maintenant. Quand justement les disciples sont arrivés et qu'ils ont dit où est-ce qu'il faut préparer la Pâque du Seigneur, tout de suite, cet homme a dit, bien voilà le lieu. Le lieu, écoutez bien, c'est justement cette expression qui se trouve. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Savez-vous que cette expression, le lieu, est traduite dans l'évangile de Luc au chapitre 2 d'une manière différente? C'est le même mot dans le texte original, mais ce lieu-là est traduit l'hôtellerie. L'hôtellerie où il n'y avait pas de place pour recevoir le Seigneur quand il est né de la Vierge Marie. Ils sont venus dans cet endroit, ce lieu, hôtellerie, la même expression dans les deux passages. Et savez-vous, l'hôtellerie à cette époque, c'était quoi? Dans une période comme celle-là, la période de Pâques, où il y avait une multitude de personnes qui se déplaçaient pour se rendre à la fête à Jérusalem, les hôtelleries étaient pleines, mais ne vous imaginez pas une hôtellerie semblable à celle que nous connaissons maintenant. Une hôtellerie, c'était une pièce, une grande pièce, où se trouvaient rassemblés pour prendre le repas et ensuite, eh bien, ensemble, les uns à côté des autres, dormir dans cette même pièce. Et bien souvent, elle était au-dessus d'une autre pièce qui, elle, était l'étable. Et souvent, il y avait aussi des odeurs particulières qui montaient de l'étable jusque dans cette chambre que l'on appelait chambre haute, où l'on rassemblait toutes les personnes, où ce maître d'hôtel pouvait accueillir les personnes. Mais quand Jésus est venu la première fois, vous connaissez cette histoire aussi bien que moi, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Tandis que ici, cet homme, il dit, voilà, cette grande pièce, je m'arrête ici un instant. J'ai pensé, en méditant ce passage, à ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il s'adresse à ces chrétiens-là. Et il leur dit, humblement, il leur dit, mais notre cœur s'est élargi pour vous. Et il réclame quelque chose maintenant. Et il dit aux Corinthiens, élargissez aussi vos cœurs. Vous voyez, il y a des moments où il y a comme cette douce pression. C'est la pression de l'amour de Dieu qui dit, mais élargissez vos cœurs. À quoi êtes-vous occupés? Quelle est votre préoccupation constante, permanente? Qu'est-ce qui se passe quotidiennement dans votre existence? Sur quoi êtes-vous centré? Est-ce que le cœur est suffisamment grand, large, pour accueillir le Seigneur comme il est digne d'être accueilli? Nous ne pouvons pas oublier, mes frères et sœurs, que dans le livre de l'Apocalypse, nous avons ce passage navrant où Jésus se tient à la porte de l'église, non pas à l'intérieur, mais à la porte. Et il dit, je frappe, si quelqu'un entend et m'ouvre, j'entrerai et je souperai. Mais comment se fait-il que cette église a mis le Seigneur à la porte? Pourquoi est-il dehors? Il n'y a pas de place pour lui. Et pourquoi n'y a-t-il pas de place? Parce que peut-être que là, dans le cœur, il y a trop de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui ne laissent pas la place au Seigneur. Je pose cette question. Jésus, pendant l'exercice de son ministère, a dû dire à certains la chose suivante. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Mais vous imaginez, mes frères et sœurs, ce que Dieu réclame, c'est d'occuper toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Il faut que notre cœur soit large, grandement ouvert pour lui. Il doit avoir, je dirais, la première place dans notre existence. Vous savez, on n'est jamais perdant quand dans notre vie, le Seigneur occupe la première place dans notre cœur. J'ai constaté ceci. Quelle joie a dû être le partage de cet homme anonyme quand il a vu que dans ce lieu qu'il a mis à la disposition du Seigneur, des paroles magnifiques ont été prononcées par le Maître. Les messages les plus beaux se trouvent dans la bouche du Seigneur, là, dans la chambre haute. Imaginez quelle a dû être la joie de cet homme maître de cet endroit, quand il a entendu le Seigneur à un moment donné s'adresser à ses disciples en ces termes, et il a dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi ». Et il a ajouté, écoutez la chose suivante, il a ajouté « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ». Et il a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Afin que là où je suis, vous y soyez également. Mettez-vous à la place de cet homme qui avait laissé cette pièce, grande pièce, à la disposition du Seigneur. C'est comme si le Maître, peut-être avec un regard qui s'est plongé dans son propre regard, lui disait, tu vois, tu as mis à ma disposition cette grande chambre, mais moi, je prépare pour toi une grande demeure dans le ciel. Et vous voyez, mes frères et sœurs, il n'y a rien que nous puissions faire ici-bas pour le Maître qui ne reçoive une récompense. Mais ne pensez pas tant à la récompense. Pensez plutôt à ce moment glorieux où vous et moi, nous serons accueillis par le Seigneur dans la gloire. Et pour ce faire, qu'avons-nous fait d'autre ? Sinon que de lui ouvrir notre cœur et de lui dire, Seigneur, viens et demeure en moi. Voilà ce qu'il a mis à la disposition. Chambre haute, au-dessus, ouverte peut-être parfois vers le ciel et vers les étoiles. Un endroit qui est loin des bruits de la terre. J'ai eu l'occasion, le privilège une fois seulement dans ma vie, de me rendre dans ce lieu qui est supposé être la chambre haute où, en même temps, il y a eu un jour, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ça a été une expérience pour moi formidable parce que ce même jour où nous étions là dans la chambre haute, il y avait des visiteurs qui étaient là, et particulièrement un groupe de Chinois. Et tandis que nous, nous louions le Seigneur dans cette pièce-là, qui est assez particulière. D'ailleurs, quand on y est, on se rend compte que les 120 personnes devaient être quelque peu entassées. D'un seul coup, on a entendu un homme s'écrier avec une grande joie, « Ah, ma femme vient d'être baptisée dans le Saint-Esprit !» C'était une petite Chinoise qui avait reçu le Saint-Esprit ce jour-là dans la chambre haute. Et je me suis dit, mais quand même, comme c'est formidable, comme c'est formidable. Mais imaginez un peu la joie de cet individu dans cette chambre haute où il avait peut-être l'habitude de regarder vers le ciel. Écoutez bien, mes frères et sœurs, notre cœur doit être tourné vers le ciel et non pas vers les choses d'en bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Réfléchissez, votre cœur est-il vraiment une chambre haute? Est-ce que l'espérance qui est en vous, c'est l'espérance de la gloire? Ou est-ce que votre cœur est rempli de projets, mais des projets à court terme, pour un temps très particulier? Je suis pas en train de condamner cela. J'ai aussi des projets. J'ai aussi certaines pensées pour le futur me concernant. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, tous ces projets-là, ils sont quand même soumis à quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Je ne sais pas si tous ces projets-là pourront se réaliser, si j'en serai le bénéficiaire, parce que je ne sais pas le temps que Dieu me réserve à vivre. Mais je sais une chose, tout est conditionné à cette glorieuse espérance. Peu m'importe ce qui m'arrivera demain, je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Et vous voyez ça, c'est ce qui doit être dans notre cœur. Chambre haute, élevons-nous au-dessus de toutes les vicissitudes de cette terre, des circonstances de cette terre que nous sommes appelés à traverser. Élevons-nous dans la louange et dans l'adoration. Puis, remarquez bien, toute prête, elle est déjà meublée, déjà préparée. Ça me fait penser à un autre passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, le livre des Rois. Vous vous souvenez de cette femme qui habite Sunem et qui a remarqué qu'il y a un certain serviteur de Dieu qui passe souvent par Sunem, et elle a remarqué que cet homme est un saint homme de Dieu. Alors elle parle à son mari. Certainement que c'est une femme qui connaît une certaine, aisance, et elle a certainement une vie sur le plan matériel quelque peu abondante. C'est pas n'importe qui peut dire à son mari, écoute, voilà, c'est le serviteur de Dieu, ce serait bien que l'on construise pour lui une chambre haute. Là, il est dit, une petite chambre haute. Pour Élisée, petite chambre haute, où l'on placera tout ce qu'il faut pour que, quand il passe par là, il vienne et puis qu'il se trouve à l'aise. Et on va y mettre quoi? On va y mettre un lit, on va y mettre une chaise, on va y mettre une table, on va y mettre un chandelier. Tout cela est symbolique. On trouve le lit, le repos. On trouve la chaise, là, à l'écoute, comme un disciple, pour entendre la voix de Dieu. La table, pour bénéficier de la communion, c'est quand on est à table en famille qu'on a communion les uns avec les autres. Quand on est à table avec le Seigneur, c'est là qu'il nourrit notre âme. Et il y a le chandelier, la lumière, la lampe qui nous éclaire pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il faut que notre cœur soit bien préparé et bien meublé. Je vais vous poser certaines questions. Mes frères et sœurs, nos cœurs sont-ils vides de toute forme d'amertume, de toute forme de haine, de toute forme de colère, de toute forme de médisance, de toute forme de calomnie? Est-il vide de toute forme de malice? Parce que ces choses-là sont incompatibles et ne peuvent pas permettre au Seigneur de cohabiter avec ça. Dieu est amour et Christ ne peut pas se plaire là où se trouvent des éléments contraires à sa mentalité, à sa pensée, à ce qu'il est par nature lui-même. Est-ce que vis-à-vis de nos semblables. Nous avons une attitude conforme à la volonté de Dieu, aimable vis-à-vis du prochain, pardonnant les fautes, mes frères et sœurs, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Si oui, alors oui, notre cœur est comme une chambre haute, prête à glorifier Dieu. Et je pense, oh mes frères et sœurs, si avant de venir, chaque fois nous prenions le temps de préparer la chambre haute de notre cœur pour que nos réunions puissent être vraiment des endroits où l'on voit la gloire de Dieu se manifester. Quelle surprise pour cet homme! Il a mis à disposition cette grande chambre haute, bien préparée. C'est là que le Seigneur a établi, comme nous avons pu le voir hier, la Sainte Cène. Et là, il a pris cette coupe en disant, voilà la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Et cet homme qui avait mis à disposition cette chambre haute, vous vous rendez compte ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là, dans son propre cœur. Et puis vous savez, cet endroit-là, il a été marqué d'une manière particulière parce que les disciples eux-mêmes, après avoir entendu les dernières paroles de Jésus, après avoir écouté ce que le Seigneur a dit d'admirable, de vraiment profond, et puis même avoir entendu cette prière sacerdotale que vous trouvez dans l'évangile de Jean au chapitre 17, une prière exceptionnelle, et après avoir fait la promesse, eh bien, quand Jésus est mort et ressuscité, c'est où qu'ils se sont retrouvés ? Dans cet endroit même, parce qu'ils se sentaient attirés, et les uns après les autres sont venus là, dans ce lieu, et c'est là aussi qu'il y a eu cette expérience formidable, le jour de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais mes frères et sœurs, moi je crois au baptême dans le Saint-Esprit, non pas comme étant quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Comprenez bien dans quel sens je veux parler. Pour moi, je remercie le Seigneur pour le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience de base. Mais la Bible dit, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire donc qu'on ne l'est pas une fois pour toutes, mais que d'une manière continuelle, permanente, en relation avec le Seigneur, avec le Maître, dans cette chambre haute de notre cœur, bien préparée, il peut y avoir constamment ce fleuve qui coule et qui nous apporte la paix, la joie, un débordement de louanges, d'adoration, qui met fin aux murmures, aux plaintes, qui met fin à l'animosité, à l'amertume, aux choses négatives que Satan veut infiltrer dans notre cœur. Tout cela est possible par la puissance du Saint-Esprit, quand notre cœur est une grande chambre haute, bien préparée. Que le Seigneur nous aide, jour après jour, à nous préparer de cette manière-là. Vous savez, dans Amos, au chapitre 4 et au verset 20, si je ne me trompe, il est dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Et nous, nous prenons souvent ce verset pour l'utiliser dans une réunion d'évangélisation, nous adressant à ceux qui sont inconvertis, et nous leur disons, à juste titre, « Préparez-vous à rencontrer votre Dieu ». Mais le Seigneur, au travers du prophète, ne s'adresse pas à n'importe quel peuple, il s'adresse à son peuple et il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il y aura une grande rencontre un jour. Oh, quel jour glorieux ce sera quand nous irons tous à sa rencontre. Mais nous devons le rencontrer tous les jours, tous les jours. C'est la raison pour laquelle si nous pouvions ressembler à cet homme, sans orgueil, sans recherche d'intérêt personnel, mais lui dire, Seigneur, mon cœur, je veux qu'il soit toujours disponible pour toi, grand ouvert. Fais en moi et au travers de moi ce que bon te semble. Que Dieu nous bénisse. Seigneur,